Alors, c'est le fait que le 12 août 2023, lors de la fête annuelle du Bienheureux, une personne totalement étrangère au canton du Valais, même étrangère à la Suisse, était présente et est venue annoncer au clergé local qu'il était au bénéfice d'un miracle présumé. Et puis, comme je suis président de l'association des amis du Bienheureux Maurice Tourneur, on est tout de suite entré en contact et ça a démarré donc le 12 août 2023 pour voir si ce miracle présumé avait une certaine profondeur.
Martyr de la foi en 92, béatifié en 93, miracle qui apparaît. Comment on fait justement pour mettre en avant ce miracle éventuel qui ferait de lui justement un canonisable?
Alors, c'est une procédure extrêmement compliquée qui doit d'abord voir les acteurs de la cause mettre en place toute une série de faits, de preuves pour les apporter pour une première enquête, un premier procès au niveau du diocèse de Sion, puis pour un deuxième procès au niveau romain, d'une fois que le procès diocésain sera terminé. Donc c'est un travail de très très longue haleine qui a débuté en août 2023 et qui probablement va se prolonger encore 3 ou 4 ans, on peut l'imaginer. Parce que, bien entendu, le miracle ne peut plus être présumé s'il est reconnu saint. Le miracle doit être réalisé effectivement, et pour le prouver, il y a la science, il y a les médecins, il y a l'avocat du diable qui est là pour, aujourd'hui c'est le promoteur de justice, qui sont là pour étudier dans toute la profondeur, sous l'angle médical particulièrement, le dossier.
Qu'est-ce que serait le miracle qui est attribué au bienheureux Maurice Tourneur?
Alors, nous sommes un petit peu prudents sur cet aspect-là, pour une raison assez simple. On n'a pas envie d'un jugement préalable des fidèles, qui tout d'un coup disent c'est magnifique, le miracle est arrivé, le miracle est établi, et puis il faut donc le canoniser. Non, on doit être extrêmement prudent et il est exclu qu'il y ait un jugement populaire qui précède le jugement de l'Église. C'est pour cela que les détails et les circonstances précises ne sont pas données au public.
L'édit du diocèse hein, fait appel à témoins, en fait. Alors, bon, Maurice Tourneur, le bienheureux, est décédé en 1949. Les témoins, ce seraient des témoins de la période, ce seraient des historiens, des écrits, ce serait quoi?
Alors, les témoins de la période sur les historiens, les écrits, ont déjà été interpellés dans un procès initial de béatification de 1953 à 1963. Pendant 10 ans, il y a eu un procès diocésain où on a examiné les écrits du bienheureux, il a beaucoup écrit, où on a examiné les circonstances de son assassinat et où des témoins sont venus depuis les marches tibétaines. Donc tous ces éléments-là qui ont permis de décréter qu'il était mort en haine de la foi, martyr, et ces deux éléments ont permis la béatification. Donc tous ces éléments-là qui sont extrêmement complexes sont réglés. Aujourd'hui, entre guillemets, il n'y a qu'à attester scientifiquement et théologiquement que le miracle présumé est en fait un vrai miracle sous l'angle de la science médicale.
C'est aussi hein, une particularité de martyr de la foi, de cette béatification hein, dont a déjà été bénéficiaire Maurice Tourneur le Bienheureux. Un seul miracle, ça suffit, entre guillemets, pour passer à une canonisation.
Oui, vous avez raison de dire entre guillemets, parce que il faut trouver la personne qui vient vous dire qu'elle est au bénéfice d'un miracle présumé. Puis un miracle, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'exceptionnel. Et ça doit correspondre non pas à des illusions, mais à des critères de réalité qu'un long procès doit absolument assurer.
Vous l'avez évoqué, hein, scientifiquement reconnu, ça se prouve comment?
Assez simplement, assez clairement, les médecins les plus spécialisés dans le domaine où la personne a été mise au bénéfice d'un miracle présumé doivent attester en finalité avec un collège de médecins déjà au niveau du procès diocésain, un autre collège de médecins au niveau du procès romain, doivent attester que scientifiquement, la guérison de cette personne, selon les connaissances actuelles de la science, n'est pas explicable. C'est ça le critère final.
Événement qui serait survenu au Tibet pendant la mission de Maurice Tourneur.
Alors non, c'est pas tout à fait ça. L'événement est intervenu dans les chaînes de l'Himalaya, au Pakistan, Et pour vous donner une petite explication sur les complexités de la procédure, normalement, le procès doit se dérouler là où le miracle a eu lieu. Et bien sûr, il y a des commissions rogatoires dans le droit canonique comme dans le droit civil, et il a fallu passer des mois à obtenir l'autorisation de l'évêque d'Islamabad de pouvoir faire le procès. Et le plus logique, c'était vraiment dans le diocèse de Sion qu'il devait se dérouler.
Ça veut dire qu'il y a, en guillemets, une sorte d'échange avec le diocèse d'Islamabad.
Absolument. Il y a une autorisation officielle transférée par le dicastère des causes des saints à Rome et qui a autorisé le déroulement du procès diocésain ici en Suisse et non pas là-bas au Pakistan dans le diocèse d'Islamabad.
Au final, c'est le pape qui décide ?
Oui, c'est lui et lui seul parce qu'il engage son infaillibilité. Et c'est ça qui est absolument incroyable et c'est ça qui fait que à Lourdes, on est aux alentours de 70-80 miracles reconnus, alors que c'est probablement des milliers et des milliers. Donc il y a là une procédure extrêmement méticuleuse, avec un droit canonique encore bien plus marqué par des procédures que ce que l'on pourrait imaginer au niveau du droit civil, qui font qu'à la fin, le pape ne peut pas ne pas prendre une décision autrement que la bonne et la juste.
Pas tout à fait pour demain.
Alors, on pense que le procès diocésain pourrait aller assez vite, étant donné qu'il s'agit vraiment de déterminer si scientifiquement il y a une explication ou pas. Et puis, l'autre volet, c'est l'aspect théologique. Est-ce que c'est vraiment le bienheureux qui est intervenu pour guérir la personne et non pas un autre saint ? Ce sont deux aspects. D'un côté, les aspects théologiques, de l'autre, les aspects scientifiques. On peut penser que le problème à résoudre étant assez circonscrit, ça aille relativement vite au niveau du procès diocésain. Par contre, le procès romain sera bien sûr encore plus long que le procès diocésain.
Quelle que soit la durée, hein, le point de départ, c'est les acteurs, aujourd'hui les acteurs de la cause, en l'occurrence, il y a une grosse partie valaisanne.
Oui, en toute logique du reste, puisque le bienheureux Maurice Tournet est membre de la congrégation des chanoines du Grand Saint-Bernard. Donc l'acteur de la cause, c'est bien sûr la congrégation des chanoines du Grand Saint-Bernard. Et finalement, elle est co-acteur avec la fondation du bienheureux Maurice Tournet et avec l'association des amis du bienheureux Maurice Tournet. Donc il y a trois co-acteurs dans cette cause qui font que celle-ci, bien sûr, bénéficie entre guillemets, du soutien des chanoines du Grand Saint-Bernard, c'est évidemment de la plus grande importance.
Le rôle du diocèse, là ?
Alors, le diocèse a un rôle de juge. C'est une enquête. Aujourd'hui, on appelle ça une enquête. À l'époque, ça s'appelait un procès. Donc, le diocèse a un rôle neutre dans cette affaire et doit évidemment s'en tenir. Et même si Jean-Marie Levet, chanoine du Grand Saint-Bernard, nous pensons tout à fait humblement et de manière certaine qu'il n'y aura aucun favoritisme, ce serait d'une grande stupidité de la part des acteurs d'essayer d'en avoir et de la part du tribunal d'essayer d'en prendre.